Conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Genard, le 3 février 1989.
Nous devons demander à notre père Saint-Jean quelle était son oraison. Je ne l'avais pas encore demandé. Puisque nous avons essayé la dernière fois de parler un peu de l'oraison. Et que c'est évident que l'oraison dans notre vie doit être la place primordiale. Vous voyez, à la différence des bénédictins, où la vie liturgique est la structure de leur vie, le panier. J'ai vécu pendant un mois dans une abbaye, puisqu'on m'avait demandé d'écrire quelque chose sur la règle de vie de Saint Benoît. Et pour ça, il fallait vivre un peu avec eux. Je les connais de vieille date, puisque, ayant trois sœurs bénédictines, forcément, on est un peu dedans. Mais c'est vrai que c'est là où on voit la très grosse différence entre les bénédictins et les dominicains. Et je dirais, avec nous, ici à Saint-Jean, nous faisons que l'oraison pour nous soit capitale dans notre vie. La vie liturgique est essentielle. Et c'est pour ça que nous devons vivre le plus qu'on peut en communauté. Il peut y avoir des moments où on est sur le champ de bataille seul. Il faut à ce moment-là avoir suffisamment de courage pour garder une vie d'oraison. Je dirais encore plus forte parce qu'on est seul. La vie liturgique demande la communauté. C'est sûr, rester son office seul, ce n'est pas très agréable. C'est pas fait pour ça. L'oraison est seule. Solitude, un ermite vit d'oraison. Il vit la prière continuelle, perpétuelle, qui est au fond l'oraison qui doit s'emparer de toute notre vie. L'oraison doit être pour nous ce qu'il y a de primordial. Alors, il faut toujours essayer de saisir cela. Je vous disais la dernière fois, il y a des méthodes de méditation. Quand j'étais au noviciat chez les dominicains, je crois que j'ai encore avoir les petits papiers, je les avais à Fribourg, mais depuis Fribourg, tout a été renversé dans tous les sens. Et alors, je ne retrouve plus grand-chose. Je ne le cherche pas, du reste. Mais on avait des méthodes d'oraison. Ça n'a pas fait beaucoup de causes, les méthodes d'oraison. En réalité, c'était des méthodes de méditation. Parce qu'à partir du XVIe siècle, c'est la méditation qui est au prix. C'est pas comme ça du tout chez les pères de l'Église. Chez les pères de l'Église, c'est beaucoup plus simple. C'est l'adoration et l'oraison. La prière intérieure. La contemplation. Il n'y a pas de méthode au sens propre d'oraison. Il y a des paliers. Et Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse ont donné ces paliers. C'est vrai. Si on pénétrait plus avant dans le mystère de Dieu. L'oraison, c'est pénétrer dans le mystère de Dieu. Et je dis bien, c'est le mystère de Dieu qui nous attire, qui nous prend, et on demeure dans ce mystère. Maître, où demeures-tu? Oui, c'est la grande demande de Jean. Parce que je crois que c'est Saint Jean qui fait ça. C'est pas Saint André. C'est Jean qui demande ça. André, il va chercher Pierre. Tout en étant avec Jésus, pensez à Pierre. Ça lui ferait du bien de le connaître. Tandis que Jean ne pensait à personne. Pensez pas à Jacques. Pensez à personne. Pensez qu'à Jésus. Dans l'oraison, ne pense qu'à Jésus. C'est ça le prof de l'oraison, c'est ne penser qu'à Jésus. Penser en aimant. Demeurer. Je crois que c'est la meilleure définition de l'oraison, c'est demeurer. Demeurer dans le Christ. Méditer, c'est pas demeurer. Tandis que là, on demeure. On est en présence. On est dans le face-à-face. L'oraison, c'est le face-à-face éternel qui commence dès cette terre. Vous voyez, c'est d'une manière embryonnaire notre vision béatifique. C'est ça l'oraison. C'est d'une manière embryonnaire. In sinu Mariae, in sinu Ecclesiae. Dans le sein de Marie, dans le sein d'Église, on fait oraison. C'est bien ce que Jésus dit à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Et Nicodème, en bon théologien, comment peut-on rentrer dans le sein maternel? Et oui, il faut rentrer dans le sein maternel. Marie, l'Église. Il faut redevenir comme des tout-petits. Et l'oraison, c'est redevenir comme des tout-petits. Vous voyez, quand Jésus dit « Je te rends grâce d'avoir révélé ces choses », non pas aux sages et aux prudents. Ça, c'est la méditation. C'est la méditation, c'est la théologie. Les sages et les prudents. Il faut être des sages et des prudents. C'est très important dans notre monde d'aujourd'hui. Mais en face de Dieu, ne soyez pas des sages et des prudents. Comme si Dieu avait besoin que vous lui fassiez un cours. Qu'il faut en faire raison comme ça. Seigneur, vous avez besoin quand même que je vous dise un peu tout ce que j'ai trouvé. C'est tellement intéressant. C'est tellement lumineux. Alors on fait un cours à Jésus. On fait un cours au Père. Comme il est grand-père, il est très intéressé au cours du petit enfant. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très beau. C'est très beau. Tu es sage. Tu es bien. Continue. C'est ce qu'il nous dit. Par amour pour nous, comme le bon grand-père. Mais pendant qu'on fait ça, il ne peut pas nous communiquer sa lumière. Et un jour, il nous fait comprendre qu'il faut nous taire. Parce qu'il y a beaucoup de bavardage. Dans la méditation, c'est normal. On médite. Vous voyez, un cours de théologie, c'est de la méditation. On médite. Et un théologien, il médite tout le temps. Et un théologien devient le spécialiste de la méditation. Il peut méditer quand il veut sur tel passage de l'Écriture. C'est normal. La méditation nous aide beaucoup pour la prédication, c'est sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Une prédication qui ne serait que le fruit de la méditation deviendrait ennuyeuse parce qu'elle ne serait pas assez vivante. Elle serait trop rationnelle. Elle ne serait pas assez vivante, elle ne serait pas assez aimante. C'est l'oraison qui fait que tout est remis dans la lumière de l'amour. Je te rends grâce d'avoir révélé ces choses, non pas aux sages et aux prudents, mais aux tout-petits. Il faut redevenir comme des tout-petits. Et c'est très difficile, redevenir comme des tout-petits. Parce que le tout-petit, c'est celui qui dépend de tous les autres. C'est celui qui ne peut pas aider les autres. Il est tout petit. Un sage et un prudent aide, toujours. On a toujours besoin de lui. Mais un tout petit, non. Au contraire, on doit le porter. C'est pas drôle d'être porté par les autres, alors qu'on voudrait les porter. Eh bien, il faut accepter cette conversion intérieure. Il y a une conversion pour entrer dans la petitesse de l'oraison et pour pouvoir être enseigné. Vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin d'être enseigné. C'est Jean qui dit ça. Et là, je crois qu'il définit l'oraison. Vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Vous venez à la source. L'oraison, c'est venir à la source. écouter la source. Quand on est un peu poète, on sait ce que c'est qu'écouter la source. Dans un bois où il n'y a personne, on entend la source. C'est magnifique, c'est beau. Et l'horizon, c'est écouter la source. C'est venir tout près du cœur de Jésus. Et en venant tout près du cœur de Jésus, en se reposant sur le cœur de Jésus, on écoute la source. On l'aime, selon son rythme même. Par le cœur de Jésus, on entre dans l'intimité avec le Verbe, dans l'intimité avec le Père, dans l'intimité avec l'Esprit Saint. On entre dans le rythme même de la très sainte Trinité. C'est un exercice divin de l'amour divin, par où on se met en communion profonde, en conjonction vitale avec la source. C'est l'exercice du don de sagesse. L'exercice du don de sagesse permet à la charité de nous mettre dans cet état de petitesse, dans cet état de celui qui est tout entier relatif à Jésus. Et étant totalement relatif à Jésus, on est relatif à la très sainte Trinité. On est relatif au Père, on est relatif au Verbe, on est relatif à l'Esprit Saint. C'est ça le mystère de l'oraison, c'est remonter à la source de toute vie chrétienne, de toute vie divine. Avoir cette audace, on est fait pour cela. Je te rends grâce d'avoir révélé ces choses aux tout petits. Et c'est capital pour nous, voyez, parce que quand on suit un cours de philosophie, on médite. Quand on suit un cours de théologie, on médite. Et au bout d'un certain temps, on devient des spécialistes de la méditation. Et devenir des spécialistes de la méditation, c'est très bien, c'est très important. Mais il y a un danger aussi. C'est qu'on reste des spécialistes de la méditation. Et on ne va pas plus loin. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'infiniment plus grand. C'est d'arriver à se mettre directement en contact avec Jésus. Par le cœur de Jésus. En contact avec cette source cachée. Pour pouvoir vivre dans cette petitesse évangélique et écouter et aimer et n'avoir d'autres préoccupations que d'aimer, que d'écouter, que d'être attentif à tout ce que le Père veut nous donner. Sommet de l'oraison pour saint Thomas. Et je crois que saint Thomas a raison. Là. Le sommet de l'oraison, c'est dire Abba Pater. C'est dire Père. Et vous voyez, c'est bien ça l'oraison johannique. Dans saint Jean, l'oraison est présente à tout l'évangile. Tout l'évangile de saint Jean nous fait comprendre ce que c'est que l'oraison. La découverte de Jésus comme agneau. Il faut demeurer auprès de lui. De suite. La découverte de Jésus comme l'agneau. Comme celui qui aime et comme celui qui nous apprend à aimer, c'est bien l'oraison. Cana, c'est l'oraison, pris d'une façon mystique. Et c'est saint Thomas lui-même qui le dit. Vous voyez, Thomas d'Aquin qui nous fait comprendre saint Jean. Et ça, c'est vrai. Tout l'évangile de Thomas d'Aquin nous fait comprendre saint Jean. Et c'est pour ça qu'on a pris cœur de le traduire pour qu'il soit à la portée de tous. Il faut revenir souvent. Voilà. Quand vous le lisez, c'est de la méditation, hein. Ça prépare l'oraison. C'est vrai, n'emportez pas à l'oraison le matin le commentaire de saint Thomas à l'égard de l'évangile de saint Jean. Et ce serait très bien, personne ne vous prendrait votre bouquin en disant non. Mais on comprend très bien que l'oraison, cette prière intérieure, réclame de nous un effort. Un effort d'amour. Il faut un effort plus grand pour faire oraison que pour méditer. Parce que c'est réveiller en nous ce qu'est de plus secret. Ce qu'est de plus secret en nous, c'est notre vie théologale. C'est de porter les secrets de Dieu. C'est ce qu'est de plus secret en nous. Il faut que ces secrets soient remis en présence de leur source. Et que nous vivions de cet état spécial qui est d'être tout proche du cœur de Jésus. Vivre de cet état de celui qui est directement nourri par Jésus. Et je dis bien, vous voyez, qui est directement nourri par Jésus. C'est la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie. Les deux grandes nourritures de l'oraison. Il faut que la parole de Dieu soit toujours dépassée pour entrer dans le mystère. C'est la présence d'une personne qui nous aime, qui nous parle, qui nous enseigne, mais qui nous aime. Et c'est cette intimité directe avec Jésus, en se servant de la parole. C'est ça qu'on vous dira à l'oraison, ne lisez pas tout le temps d'oraison la parole de Dieu. Ce n'est pas le but de l'oraison. Le but de l'oraison, c'est de se servir de la parole, mais d'entrer dans le mystère et être face à face. D'être directement dans cette intimité avec Jésus, dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance. C'est la vertu théologale, avant tout. Et il faut que les vertus théologales soient parfaitement dans l'exercice. C'est ce que dit saint Thomas textuellement, quand dans les notes de Cana, il commente mystiquement les notes de Cana, et il nous dit que c'est l'exercice des vertus théologales. C'est cet exercice qui est la transformation de notre cœur dans le cœur de Jésus. Le mystère de la transsubstantiation, c'est ça. Ce qui est de plus vital en nous, c'est notre cœur source d'amour. C'est notre cœur source d'amour qui est changé dans le cœur de Jésus. Pour que ce soit Jésus qui vive en nous. Et leur raison, c'est nous remettre dans cet acte profond de foi. Le Christ habite en nous par la foi. Le Christ demeure en nous par la foi. Jean demande de demeurer auprès de lui et Jésus veut demeurer en nous. Et c'est dans la mesure où nous découvrons que Jésus demeure en nous de façon vitale qu'alors nous commençons à entrer dans ce mystère de l'oraison. Je crois que le propre de l'oraison johannique, c'est d'être extrêmement direct. Pas trop de préambule. Oui, c'est comme l'évangile de Jean. Pas trop de préambule. On entre immédiatement dans la charte de la contemplation. Le prologue. Immédiatement. Oui, durant toute la journée, vous êtes des spécialistes de la méditation. Vous le devenez, quoi. Quelques années, vous deviendrez des spécialistes de la méditation. Ce qui est normal. C'est ça qu'on attend de vous. C'est votre métier. Votre métier, c'est de méditer. Méditer sur l'homme, philosophiquement parlant. méditer théologiquement sur la parole de Dieu, sur le mystère de Dieu, sur la conduite de Dieu. C'est méditer. Mais on sait bien que la méditation n'est pas tout. Et c'est pour ça que dès qu'on peut, on entre en oraison. Tout de suite. Oui, c'est la cinquième vitesse. Là, on y reste. Surtout qu'on sait qu'il n'y a jamais d'obstacle. Il faut entrer à fond dedans. Il faut entrer très vite. Votre noviciat pendant le carême doit être un noviciat qui a une soif ardente de l'oraison. C'est votre première préoccupation. Jésus, c'est le temps du désert. Donc c'est le temps de l'adoration et le temps de la contemplation et de l'oraison. Avant tout, ben oui, il sera bon de gêner un peu, c'est bien évident, dans la mesure où le permettra, en sachant si vous n'avez pas trop maigri. Ceux qui ont beaucoup maigri, permettra attention, attention, parce que je ne sais pas comment vous termineriez le carême, en dessous de votre lit. Ce qui peut faire froid encore, hein, quand l'hiver n'a pas été encore très rigoureux, faire très froid pendant le temps de carême. Et le vendredi saint par-dessus le marché. Je vais faire très froid. Alors, il ne faut pas trop, mais c'est bien de jeûner. Quelques jours par semaine, ne pas prendre de beurre, ne pas prendre de confiture, prendre du café au lait, si vous voulez, ou ceux qui sont habitués à prendre que du lait. Le lait, c'est pour le café, donc ça va, canoniquement parlant. C'est le quasi. C'est comme s'ils prenaient du café, ils sont habitués à ça. Ils ne peuvent pas prendre du café, donc ils prennent du lait. Ou bien de l'eau chaude. Chacun en a trouvé. Hein. Et puis on ne regarde pas trop dans l'assiette du voisin. Ce qu'il fait comme jeune. Il faut qu'on soit seul à face de Dieu. C'est comme les prisonniers quand ils assistent à la messe. Dans une prison, c'est très tellement joli. J'attends. Et dans son... Ils ne voient pas le voisin. Ils sont seuls. Oui, parce qu'autrement, la messe serait le lieu où les prisonniers se retrouvaient ensemble. Vous voyez. Or, les grands prisonniers ne doivent pas parler entre eux. On est les grands prisonniers de Dieu. Hein. On est seuls avec Dieu. On est vraiment seuls avec Dieu. Prisonnier volontaire pour n'être qu'avec Dieu, pour ne vivre que de lui. Prisonnier, ami, épouse. Prisonnier, c'est les commençants. L'ami, c'est le progressant. L'épouse, c'est la femme. Mais on est ça, c'est très vrai. On est séparés. Et on veut être complètement séparés. Un peu de jeûne pendant le carême, c'est bon. Mais l'accent est mis sur l'oraison. Je voudrais que pendant le carême, il y ait une ferveur de raison. Je sais bien que ça dépend du Saint-Esprit, ça. Mais si vous en avez une soif ardente, le Saint-Esprit sera là et vous attend pour faire que ce carême soit particulièrement fervent. Qu'il y ait comme une très très grande soif d'entrer dans la raison. Et il faut toujours se considérer dans la raison qu'on est des novices. Dites pas, je dis ça, c'est pour ceux de seconde année. Non, nous savons bien. Connaissons. Et ceux de troisième année, nous savons déjà ce que c'est que l'oraison. Et ceux de 50 ans de vie religieuse, eh bien, on ne sait jamais ce que c'est que l'oraison. On est toujours des novices du Saint-Esprit. C'est ça le grand mystère de l'oraison. C'est pour ça qu'on ne peut jamais se fatiguer de l'oraison. Quelqu'un qui se fatigue de l'oraison, ça prouve qu'il est retombé dans la méditation. Quelle chute! Il y a des strapontins en méditation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est le désert. Là. On a été fatigué, alors on s'assit. L'oraison, c'est tout le temps, différent. C'est l'action de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il ne faut pas. projetez, n'ayez pas, je ne crois pas, des sujets de raison. Parce que ça se fait dans certaines méthodes. C'est un petit peu comme les méthodes de raison. Je ne crois pas. Oui, le saint du jour, ou la fête de Marie, ou le samedi, Marie, et le vendredi, puisque c'est le jour de pénitence, on fait, alors qu'on soit un peu plus pécheur en face de Dieu le vendredi, je comprends. Mais autrement, n'ayez pas lundi telle chose, mardi telle autre, mercredi, vous savez, il y a des dévotions comme ça. C'est très très bien au point de vue de la dévotion, mais je ne crois pas au point de vue de la raison. Je crois qu'au point de vue de la raison, il faut avoir une simplicité beaucoup plus grande. Au point de vue de la raison, on va se reposer divinement auprès du cœur de Jésus. Et on va auprès du cœur du Christ. Et on a des audaces prodigieuses d'aller auprès du cœur de Jésus. Puisque Saint Jean l'a fait. Et que nous sommes ses enfants. Alors que vous demandiez à Saint Jean de vous y conduire. Et vous voyez cette audace, dire à Saint Jean que, puisque lui l'a fait, et que vous êtes son fils bien-aimé, vous êtes son enfant bien-aimé, et bien demander à Saint Jean de pouvoir faire oraison tout proche du cœur du Christ. C'est ça l'oraison, vous voyez, c'est la, sous la conduite de l'Esprit Saint. Donc c'est très pauvre, c'est très dépouillant. Si le Saint-Esprit nous laisse dans cette pauvreté et ce dépouillement, tant mieux. On n'aura rien repris à Dieu de ce temps d'oraison. Il n'y aura pas de rapine. Parce que vous savez, quand on est dans le désert, il n'y a pas de rapine. On a compris que le sable, c'était pas obligé de rapine. On le laisse. Seul, tant mieux si c'est rude. On prouve à ce moment-là à Dieu qu'on veut l'aimer au-dessus de tout. Et on brûle ce temps pour Dieu. Il faut brûler ce temps. La raison, c'est vraiment brûler ce temps pour Dieu. Oui, tandis que si vous avez un sujet de raison, vous retombez dans la méditation. Cause matérielle, cause formelle, cause efficiente, cause finale. Une méditation, très bien. Vous voyez, une demi-heure, donc on va diviser la demi-heure en quatre. Cause matérielle. Cause formelle. Sur ce sujet qu'on a pris, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec l'oraison. Rien du tout. L'oraison, dialogue d'amour du petit enfant, du tout petit. Et qui demande la parole et l'Eucharistie. Nous devons, j'allais dire, divinement nous servir de l'Eucharistie, comme on se sert de la parole. Et vous voyez, quand on ne se sert pas directement de la parole, parce que justement on a jugé qu'il valait mieux être très très pauvre. C'est pour ça qu'on n'a pas de livre d'oraison. On aurait pu inventer un livre d'oraison. Je connais un bon prêtre qui fait une prière pour tous les jours, vous voyez, c'est édité même. C'est la méditation pour tous les jours. C'est très reposant, parce qu'on sait quoi dire, au moins. Tous les jours, on regarde la page, puis on récite ça. Faites pas l'oraison pour tous les jours. Vous voyez, un livre, l'oraison pour tous les jours, à Saint Jean. Remarquez. L'oraison pour tous les jours à Saint Jean. Non. Au-delà de la parole, l'Eucharistie. Et ça, c'est tellement joannique. Divinement utiliser l'Eucharistie pour que nous puissions entrer dans l'unité avec le cœur de Jésus. C'est ce que fait tout de suite, vous voyez, l'usage divin de l'Eucharistie. L'usage divin de l'Eucharistie, c'est la communion spirituelle. C'est la communion spirituelle. puisque pendant l'oraison, normalement, on ne communie pas sacramentellement. On communie sacramentellement à la fin de la messe. Tandis que dans l'oraison, on communie mystiquement à Jésus. Il nous est donné, il est là pour nous. Et s'il est là dans le tabernacle, s'il est là exposé, c'est pour nous. Donc c'est pour cette communion spirituelle et mystique. Jésus n'est pas dans le tabernacle pour demeurer dans le tabernacle. Il est dans le tabernacle pour demeurer en nous, mystiquement. Et saint Thomas n'hésite pas de dire que la communion mystique, comme le baptême de désir, oui, c'est une communion de désir. On a soif de recevoir Jésus. Et je veux dire, on a d'autant plus soif de recevoir Jésus qu'il n'y a pas le déplacement pour la communion sacramentelle. Il y a toujours des petites distractions. Pas possible autrement. Là, pas de distraction. On peut être seul, entièrement seul avec Jésus. Et le recevoir mystiquement, avec soif et un désir intense. Et la présence de Jésus dans le tabernacle ou sur l'autel, c'est pour la communion mystique. Et notre oraison à la chapelle, ça doit être une oraison qui est la communion mystique avec le corps du Christ, avec le cœur de Jésus. Et ça, c'est très important, ça nous aide énormément. Ça nous fait faire des progrès extrêmement rapides. C'est pour ça que c'est si bon de faire oraison à la chapelle en présence de Jésus. Ça nous aide beaucoup. Tandis que si on faisait oraison seul, dans sa petite chapelle, son petit oratoire, de sa cellule, ce serait plus dur. Ça peut se recevoir, hein. Je ne le condamne pas du tout. Les carmélites font comme ça. Ça peut très bien se recevoir, parce qu'on n'est plus seul. C'est vrai, on est beaucoup plus seul. C'est l'exercice divin des vertus théologales avec la parole de Dieu. Là, vous faites d'une manière désertique l'exercice divin de recevoir la parole de Dieu. Et d'en vivre, d'être la bonne terre. Mais pour un chrétien, il y a quelque chose de plus direct, c'est l'Eucharistie. La parole de Dieu est ordonnée à l'Eucharistie, et l'Eucharistie est ordonnée à la vision béatifique, directement. C'est pour ça que notre horizon lié au mystère de l'Eucharistie nous met tout de suite en face du mystère du face-à-face. Et donc du mystère de la vision béatifique. Tout de suite, immédiatement. Et c'est ce qu'il y a de si grand. Parce qu'on est en attente. On lui donne tout. Et on lui demande de nous porter. In sinu patris. De nous porter dans le sein du Père. De nous porter dans l'intimité même. Que lui connaît avec le Père, que nous puissions dire avec lui, Abba, Pater. C'est normal de saluer le Père comme il demande d'être salué, et de l'aimer comme il demande d'être aimé. C'est normal qu'il y ait quelque chose qui nous emporte vers Jésus. Dans sa gloire. L'Eucharistie est faite pour ça. Oui, pour cette communion toute la journée. On parle de la prière perpétuelle, on peut parler de la communion perpétuelle. y a une communion perpétuelle qui se fait par ce désir ardent dans notre cœur de vivre de ce mystère où Jésus se donne à nous comme pain. C'est important, vous voyez, pour nous, cela, de comprendre que ça dépend entièrement de nous, d'user divinement l'Eucharistie et de communier spirituellement. Et que l'Esprit Saint aime cela. Parce qu'à ce moment-là, on entre dans un silence beaucoup plus profond, le silence même de l'Eucharistie. Parce que dès que Dieu est présent comme celui qui vient nous prendre et qui nous attire et qui nous transforme, garde le silence. Comprenons cette démarche de l'oraison. Il faut bien la comprendre. Elle est capitale. C'est la petite voie royale, vous voyez. C'est vrai, c'est une petite voie royale. Parce que faut accepter la pauvreté de l'hostie. Et c'est rude. Il faut accepter l'immobilité de l'hostie. Et c'est rude. Il faut accepter que l'intelligibilité de l'hostie est beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible que celle de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, du reste, que l'Eucharistie conduit plus immédiatement au silence. Et c'est pour ça que l'Eucharistie permet d'être beaucoup plus pauvre. Le pain des pauvres. Alors, comprenons un peu cela. Parce que c'est très peu développé chez les spirituels, très peu développé. Et pourtant, je crois que pour nous, c'est capital. Parce que l'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'Eucharistie par excellence. Et surtout si vous mettez Jean avec le complément de Saint-Luc. Quand il s'agit des apparitions, le complément de Saint-Luc est quelque chose de si merveilleux, puisque c'est les apparitions aux disciples d'Emmaüs. Les apparitions aux disciples d'Emmaüs, c'est la fraction du pain vécu qui fait vivre tout de suite du mystère, immédiatement. Et c'est très beau, parce que ça montre ce que c'est que méditer avec Jésus. Et puis, subitement, on passe de la méditation à l'oraison. Par l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui fait ce passage. On adhère à cette présence. Et cette présence nous met en présence directe de Jésus. Nous fait vivre de son mystère d'amour. De son attraction profonde. C'est cela, vous voyez, qui fait comprendre comment le privilège de faire oraison auprès de Jésus dans l'Eucharistie, caché dans le tabernacle, présent dans le mystère même de sa vie, et de sa vie qui se donne. La parole, c'est bien Jésus qui se donne, la parole de Jésus, pour enseigner et toucher notre cœur. L'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus blessé qui se donne. Et nous le recevons comme le cœur blessé de Jésus qui se donne à nous, pour transformer, transsubstancier notre cœur. Et c'est bien le mystère des noces de Cana. C'est le mystère du vin. On pourrait dire, il y a le pain et le vin. Et par le fait même, on voit bien comment Jésus se donne comme pain, Jésus se donne comme vin. Le double don dont nous devons vivre dans l'oraison. L'oraison nous fortifie parce qu'elle nous met dans l'attitude de vérité Et c'est la vérité qui fortifie, qui libère et qui donne cette force. Et le vin, c'est Jésus qui se donne pour augmenter notre joie, pour nous enivrer, pour nous faire sortir de nous et entrer dans cette intimité avec lui, être revêtu de son sang, dans la pureté, dans l'amour. Vous voyez, il y a là un très grand mystère d'amour qui est très important pour nous. On ne se sert pas assez de l'Eucharistie comme le moyen divin et le plus divin pour entrer dans l'horizon. C'est pour ça que je dis que dès qu'on garde l'Eucharistie, on voit bien qu'il n'y a pas de méthode. Jésus nous a donné la voie. La seule voie pour faire horizon, l'Eucharistie. Et c'est pour ça que l'Église latine maintient la présence de l'Eucharistie. On sait bien que quand on vit dans un ermitage, dans la solitude, on a besoin de la présence de l'Eucharistie. Et c'est important de comprendre cette nécessité de la présence de l'Eucharistie. C'est pas seulement pour la communion sacramentelle, c'est pour la présence mystique et la communion mystique. Alors, il y a la présence durant toute la journée. Où on comprend alors que l'oraison doit être comme le souffle normal de notre vie pour entrer dans cette unité de vie avec Jésus, avec le cœur du Christ, une unité substantielle de vie où tout est vécu avec Jésus. Et le mystère de l'Eucharistie, c'est la porte. On ne peut plus s'en séparer. Et c'est vrai, c'est une des choses qu'on sent tellement fort, ça. C'est le propre de la vie catholique, d'avoir cette divine familiarité avec Jésus, par l'Eucharistie. C'est bien pour ça que Jésus se donne à nous sous cette forme du pain et du vin. C'est pour cette divine familiarité. C'est pour que cette intimité avec Jésus prenne possession de toute notre vie. Et qu'il y ait cela qui caractérise notre vie. Et Jésus sera là pour nous rappeler ce temps que nous devons lui donner, que nous devons brûler pour lui. L'oraison. L'Eucharistie nous conduit à ce rapt divin. Nous conduit à cette unité de vie, de cœur et de lumière avec Jésus. C'est ça le but de l'oraison, c'est d'être avec Jésus et de vivre ce qu'il vit. Et de vivre dans l'intimité profonde. Je ne peux pas faire oraison pour quelqu'un d'autre. Au sens strict. Je peux, dans l'oraison, prier pour quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est très bien. Mais je ne fais pas oraison pour quelqu'un d'autre. C'est une assimilation mystique. C'est une vie d'amour avec Jésus. Donc on ne peut pas, c'est impossible. Mais ce qu'on peut, étant un avec Jésus, alors porter nos amis, et porter les conduire à Jésus, et dire à Jésus combien nous sommes là pour eux. Comment pouvons-nous distinguer l'oraison de la méditation, de la contemplation? L'oraison est au-delà, comprenez bien, au-delà de la méditation. Et l'oraison est ordonnée à la contemplation. Autrement dit, dans l'oraison, Il y a un temps fort qui est la contemplation. C'est le temps fort. C'est à l'intérieur même de l'oraison. C'est pas extérieur à l'oraison. L'oraison atteint son terme. Alors, c'est évidemment à l'intérieur même de notre vie. Il est bon alors de regarder comment se fait ce passage de transformation profond dans le cœur de l'homme, dans le cœur du disciple du Christ. Parce qu'il se fait une transformation. La contemplation, c'est un regard. Vous voyez, Saint-Amand dit pas les noces de Cana, c'est la contemplation. Il dit l'oraison. Et je suis sûr qu'il y a une raison. Il parle de la vie contemplative. La vie contemplative finalise toute notre vie. Ça doit finaliser toute notre vie. L'oraison, c'est Dieu qui brûle instant par instant toute notre vie. Vous voyez, dans la contemplation, il y a quelque chose d'ultime. L'oraison reste une union d'amour, une intimité qui nous fait vivre ce que Jésus vit. Donc, il y a bien plus de modalité dans l'oraison que dans la contemplation, où il y a nécessairement quelque chose d'ultime. Ce quelque chose d'ultime, c'est justement notre intelligence qui est offerte à l'amour, qui est donné à l'amour. C'est l'intelligence qui accepte de mourir à elle-même. C'est ça le propre de la contemplation, et c'est la lumière divine qui nous est donnée. Vous voyez, l'oraison n'a pas toujours de lumière. La contemplation non plus. Et quand on a des lumières, ce n'est pas l'oraison et ce n'est pas la contemplation. Je viens vous dire ça, hein. Quelquefois, on croit que c'est l'oraison et la contemplation, ce que on reçoit indirectement comme lumière. Non. La contemplation, elle est dans la foi. Et l'oraison est dans la foi. Donc, dans l'obscurité de la foi. Mais dans l'amour. Et l'amour peut dépasser la foi. Dans son exercice profond. Et l'amour dépasse la foi dans l'oraison, où on est tout entier tourné vers Jésus. On est tout entier là pour lui. Et on demeure dans son cœur. De sorte que, vous voyez bien, ce n'est pas les lumières qu'on peut avoir. C'est très agréable de sentir qu'on est aimé, que subitement l'Écriture devient pour nous lumineuse. C'est merveilleux, mais c'est pas ça l'oraison. C'est pas ça la contemplation. La contemplation, c'est cette soif. Cette soif intérieure d'amour. Soif. Qui prend tout notre cœur pour le lier au cœur de Jésus. Cette contemplation, c'est dans cet amour, ce regard. C'est dans cet amour, cette lumière. Lumière dans la foi. La foi devient lumineuse. C'est pas contradictoire. La foi devient lumineuse et la foi nous unit très très profondément avec la source de l'Eucharistie, Dieu Tout-Puissant. La source de la parole de Dieu. La contemplation, c'est donc par nature quelque chose de plus passager. On demeure dans l'horizon. On passe dans la contemplation. C'est quelque chose de plus passager. C'est une lumière divine qui nous transforme, qui qui peut nous aider pendant plusieurs jours, pendant une semaine, parce qu'il y a une lumière de Dieu qui demeure. C'est ça la contemplation, c'est cette lumière de Dieu qui demeure dans l'amour. C'est cette petite étincelle de la lumière de Dieu qui nous met en connaturalité profonde avec le mystère de la lumière. C'est un passage normalement de l'oraison. C'est à partir de l'oraison que la contemplation jaillit. Il faut une ferveur particulière, une soif particulière d'entrer dans cette unité de vie et de lumière avec Jésus. Être là uniquement pour lui dire combien on l'aime, combien on désire l'aimer, combien on est là tout entier pour lui. La contemplation, c'est cette lumière qui prend tout pour transformer tout. Et le lendemain, on pourra justement mieux comprendre cette grâce passagère, gratuite de l'oraison, qui n'est pas un charisme, et qui est entrer, demeurer, contempler, voir ce que nous avons vu du Verbe de vie, ce que nous avons contemplé de son amour. On pourra, à ce moment-là, mieux saisir cette attente de l'oraison et cette levée de la contemplation face à face. Face à face qui est commencé substantiellement, mais dans l'obscurité. Mais c'est le face à face du ciel. Et je ne dirais pas que l'oraison, c'est l'anticipation de la vision béatifique. Mais l'oraison, c'est le halo, si vous voulez, la nuée, par laquelle on est porté par l'Esprit Saint, comme des tout petits, qui nous montre comment nous devons vivre déjà dès ici-bas cette exigence de la vision béatifique. Et nous devons nous y préparer. Et on se prépare à cela par l'oraison. Vous voyez, l'oraison, c'est premièrement une œuvre d'amour. Déjà, la contemplation, c'est premièrement une œuvre d'une intelligence transformée par la foi, transformée par le don d'intelligence et le don de sagesse. Une intelligence qui veut être totalement consacrée, totalement donnée, qui ne veut que Dieu. Qui veut par le fait même réparer, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, où tellement d'intelligence ne veulent pas s'offrir à Dieu, à la véritable lumière. Il y a une note de réparation, toujours. C'est normal, ce sont les amis. Demandez à l'Esprit Saint de comprendre, plus pleinement, plus divinement, cette vie qui est leur vie. Et vivre de cette vie de lumière, déjà dès cette terre, dans l'obscurité de la foi. Il faut en avoir soif.